Bonjour à tous, fidèles auditeurs de la web radio Arevi. Vous qui suivez à chaque fois l'information sur les sites et la web radio Arevi, nous sommes dans l'émission Santé à la Une, votre magazine de bien-être sur la web radio Arevi. Nous animons tous les jeudis cette émission pour le bonheur des auditeurs. Dans ce numéro, nous revenons sur la série de présentations sur les méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes, la phytothérapie et ses bienfaits pour l'homme et ses impacts sur la santé publique. Nous sommes aujourd'hui avec notre invité du jour, Dr Degbe Mlatovi. Il est biochimiste et biologiste cellulaire. Il va nous parler de nouvelles techniques et va nous apprendre comment mieux maîtriser les traditions en accord avec la santé. Santé à la Une, nous commençons avec cette sonorité musicale. De l'émission Santé à la Une, nous sommes de retour en studio après cette randonnée musicale avec Afia Mala. Nous allons parler des méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes avec Dr Mlatovi, biochimiste et biologiste cellulaire. Docteur, soyez les bienvenus.
Merci Dr Bekley.
Nous sommes à notre troisième numéro de cette série d'émissions sur les méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes. Et j'avoue qu'il y a toujours l'engouement pour découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes. Aujourd'hui, nous sommes là pour en découvrir, Dr Mlatovi.
Merci beaucoup, Dr Bekley. Tout de go, j'aimerais faire une petite mise au point à nos chers auditeurs. Souvent, quand on voit des africanistes, on voit des panafricanistes, on voit des kémites en train de parler des méthodes thérapeutiques africaines ou bien de parler de la culture africaine, on a l'impression que cela va en opposition, ça va contrer, on est en train de lutter contre la culture occidentale. C'est comme on est en train de défier la culture occidentale. Je pense que notre objectif n'est pas cela. Voyez-vous?
Pas du tout.
On est dans cette logique que chaque terre, chaque région a sa culture, a sa manière d'aborder la vie, a sa pierre à apporter à l'édifice qui est l'humanité. Donc, aujourd'hui, on reconnaît que la technologie occidentale est très avancée. Ils ont une technologie, ils ont une méthode scientifique, mais cela ne veut pas dire qu'on doit nier ce que nous avons en Afrique. Quand nous sommes là en train de parler de ces méthodes, c'est voir la complémentarité ou bien de nouvelles méthodes, nouvelles manières de voir et de produire de connaissances scientifiques. Tout à l'heure, en écoutant cette musique africaine, cette voix africaine,
Je voyais les yeux fermés.
Justement, je méditais.
En inspiration profonde.
Justement, voyez-vous, cette voix africaine, vous voyez comment c'est assorti avec les instruments. La guitare, elle n'est pas d'origine africaine, quoi qu'on puisse dire. On a le balafon, on a d'autres instruments. Le piano, par exemple, on a le balafon chez nous qui peut être le piano africain. Mais regardez cette symbiose entre les instruments à l'occidental, la technologie occidentale et la voix africaine, cela nous a donné une musique vraiment méditative, une musique qui m'a tout à l'heure emporté.
Donc, quand nous sommes... J'allais dire musique contemplative.
Justement. Vraiment, la voix même de la diva, ça t'emporte. Et la façon dont les instruments marchent de pair avec la voix, ça nous mène dans les sinuosités de l'esprit. Et tout à l'heure, on se retrouve en terre vraiment africaine pour parler des méthodes.
Et j'avoue qu'elle ne se le cache pas. Hein. Elle dit souvent qu'elle a ses inspirations, pas forcément du monde physique, mais du monde invisible.
Très bien.
Et elle travaille à en recevoir davantage.
Tout à fait. Il faut voir son dernier album, Authenticité, le retour aux sources, et avec tout ce qu'il a fait avec les cultes du vaudou dans les divinités de l'eau. J'avoue vraiment, c'est une diva. Et je pense qu'on n'est pas là pour une émission de musique, mais les gens ne reconnaissent pas la grande valeur de cet artiste togolais.
Non, on n'est pas là pour une émission musicale, mais je sais, vous n'allez pas me contredire, que la musique, qui a des méthodes traditionnelles endogènes.
Tout à fait.
Qui utilise la musique pour le traitement d'un certain nombre de maladies.
Parfaitement. Nous allons en venir.
Et donc, nous sommes en train de devancer un peu, mais nous ne sommes pas en dehors du cadre
justement,
de notre émission.
Nous allons en venir, justement. Merci. Cette méthode de la transe thérapeutique, on va venir quand on chante, on danse. Il arrive un certain moment que le malade entre en transe et ça devient une méthode très utilisée au Sénégal, très utilisée aussi dans les cercles initiatiques africains. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler, rebondir sur un événement qui vient de se passer, qui nous donne vraiment, Dr Bekley, raison. Et je suis sûr que tu es au courant. Nous parlons ici des médicaments, des plantes et autres, mais tu as la nouvelle. Je vais te devancer. Tu vois que dans notre laboratoire, une doctorante qui vient de remporter le premier prix de la thèse en 180 secondes. Et avec quoi? Tenez-vous bien, elle a pris une plante africaine et elle a développé, elle a démontré la capacité cicatrisante de cette plante-là.
Un spécial coucou à mademoiselle Kototutu Viviane Okwe.
Voilà. Tout à fait. Hier, on dirait que c'était moi qui remportais le prix parce que j'étais vraiment fier, j'étais vraiment heureux. Parce qu'il n'y a plus, et c'est un concours international. Elle est directement sortie pour les demi-finales pour représenter le Togo sur le plan international.
Et ça grâce à l'usage des plantes.
À l'usage des plantes. Et j'aimerais aborder aujourd'hui, je vais revenir sur les méthodes toxicologiques. J'aimerais revenir précisément sur la capacité des Africains à traiter les plaies. Aujourd'hui, on a plein d'antibiotiques, d'antiseptiques qu'on utilise dans les pharmacies. On ne dénie pas leur capacité, on ne dénie pas leur efficacité. Mais il faut reconnaître, comme j'ai l'habitude de le dire, avant que la médecine occidentale n'arrive au XVIIIe siècle en Afrique, il y avait déjà une façon africaine, une méthode africaine, un art africain de traiter les traumatismes. Et je le répète, s'il y a un continent sur lequel les plaies peuvent vite s'infester, c'est vraiment en Afrique. Tout parce que le climat, la température, y est propice pour que les microbes puissent se développer très rapidement dans les plaies. En Afrique, il y avait eu des guerriers, il y avait eu des conflits. On ne refuse pas. Là où les hommes vivent, il y a toujours des conflits. Et quelles sont les armes de combat qu'on utilisait? Ce sont des armes blanches, comme les sagaies, les flèches, les couteaux, les coucoupes, les haches. Et on sait que ce sont des instruments qui vont induire des plaies ouvertes au niveau des guerriers. Et il faut traiter ces plaies-là. On sait qu'en Afrique, ce sont des cultivateurs en grande partie qui vont aller pour cultiver avec des coupes-coupes, avec des roues, avec des dabas. Et quiconque ayant connu les travaux champêtres sait très bien qu'on se blesse très rapidement avec ces genres d'outils. Et que ces plaies-là, au milieu champêtre, où il y a des bactéries du sol, il y a des microbes du sol, il y a des champignons du sol, cette plaie va très vite s'infecter. Et si la personne n'a pas des capacités, il n'a pas des connaissances pharmacologiques pour pouvoir traiter cette plaie va très rapidement s'infecter et on va aller à l'amputation. Mais heureusement, quand on regarde dans l'Afrique traditionnelle, on ne voit pas beaucoup d'amputés. Ce qui veut dire qu'ils avaient des capacités pour traiter les plaies.
Ça, c'est un bon constat. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas vu assez dans les livres que nous ont présentés.
Oui.
Bien que ces livres présentaient souvent une Afrique mutilée, une Afrique démunie, on n'en a pas tellement vu.
Justement, pour le mot mutilé que tu viens de dire, ça m'a réveillé quelque chose. Je sais que tu le connais. Quand on a eu des mutilations en Afrique, tu le sais, c'est le roi, Léopold II, quand il voulait le roi blanc, qui voulait le caoutchouc. Et il a donc envoyé les gens au Congo. Quand le Congo était devenu sa propriété privée, il faut obliger les gens à travailler gratuitement pour lui. Les pères de famille refusaient. Alors qu'est-ce que le roi donnait comme ordre? C'est d'attraper toute la famille et de couper les bras. On coupait les bras, les manches courtes et les manches longues. Les photos sont encore là aujourd'hui. Mais en Afrique, on n'avait pas vu des gens mutilés, des gens amputés parce qu'une plaie s'est infectée. On réussissait toujours à guérir les plaies. Voyez-vous, on avait donc une connaissance à exploiter.
Une page assez sombre de l'histoire de l'Afrique.
Que nous ne devons pas oublier.
Exactement. Si nous voulons construire une nouvelle Afrique. Alors, nous revenons sur les méthodes. Tout à l'heure, vous parlez des méthodes qui sont utilisées pour le traitement des plaies. Vous pouvez nous en citer une, deux?
Oui, justement. Dans les traitements des plaies, on va voir d'abord la façon dont le traumatisme de la plaie a été causé. Et cela va déterminer donc quel type de plante on va utiliser. Et ces différents types de plantes vont se classer en plusieurs catégories.
Alors, vous êtes en train de nous dire qu'en fonction du profil de blessure ou bien du profil de plaie qu'il y a,
oui.
Les plantes ou bien les méthodes diffèrent.
Justement.
Alors, on peut avoir combien de profils de plaies?
On peut avoir jusqu'à 5 profils. D'abord, si
on le reconnaissait déjà.
Bien sûr. Non, mais justement, écoutez, c'est ça le mal. Nous avons, depuis la classe de CP1, été nourris au lait occidental. On a fait une tabula rasa, un déni de connaissances. On ne nous a jamais enseigné ce que nous connaissons. On a toujours transposé ce que le colon a voulu faire. Et cela reflète le type de colonisation que nous avons eu en Afrique occidentale francophone. C'est la colonisation, c'est l'assimilation. Au fait, nous étions de petits Français. Et nos ancêtres étaient des Gaulois, hein, à la tête de bois. Voyez-vous? Donc, on a sciemment occulté l'histoire des Africains, comme ils ne connaissaient rien. Et tout ce qu'on nous enseignait, c'est ce que le blanc a apporté, qu'on nous enseignait. Et ce qui est encore, c'est-à-dire, je ne sais pas, le comble, c'est de commencer l'histoire de l'Afrique par l'esclavage. Ça, c'est choquant. Je pense qu'il y a des inspecteurs qui vont nous écouter, il y a des autorités qui vont nous écouter. Il va falloir qu'on enlève cela. Parce que...
C'est-à-dire, ils pensent qu'avant, l'Afrique n'a pas connu d'histoire avant l'esclavage.
Oui, justement. L'enfant, on commence la traite négrière, le commerce triangulaire, c'est la leçon qu'on avait en classe de CE1. Et il y a deux leçons. La toute première leçon d'histoire, c'est l'histoire de votre école. On vous raconte comment votre école a été fondée, qui était le premier directeur, l'actuel directeur et tout et tout. La deuxième leçon, c'est le commerce triangulaire. En CP1, CP2, il n'y a pas de leçon d'histoire. En classe de CE1, au cours élémentaire première année, vous commencez et on vous montre que vos ancêtres étaient des esclaves. Qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer dans la tête de l'enfant? On est en train de lui dire que tu ne vaux rien, tu n'es que descendant d'esclaves. Oh, c'est faux. Nous sommes des descendants des savants. Nous sommes des descendants des constructeurs de pyramides. Nous sommes des descendants des grands, de ceux qui ont inventé la médecine. Nous sommes des descendants de ceux qui ont inventé l'astrologie. Nous sommes les descendants de ceux qui ont connu Dieu. La source de toute spiritualité aujourd'hui se retrouve en Égypte antique. Et on l'a montré, Tchakantajok l'a très bien montré dans la nation d'agriculture et dans tout ce qu'il a produit, que c'est une civilisation nègre, authentiquement nègre. Donc, faire comprendre à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme un enfant, je vous vois, excusez-moi, docteur Beclé, et je vous dis que ton papa était mon esclave. Automatiquement, je suis en train de dire que tu m'es soumis, tu m'es redevable quelque part. Est-ce que tu comprends? Donc, déjà, ça là, on doit enlever ça. C'est justement pour rebondir que...
Et ça, je pense que les scientifiques, il y a certains ont eu à faire ce travail-là. Oui. Je pense aux 8 tomes de l'histoire de l'Afrique qui ont tout été reconstitués sous la houlette de Tchikanta Diop, de Joseph Kizerbo et plein d'autres.
Oui, très bien.
Qui est bon à lire.
J'ai les 8 tomes en PDF. J'avoue que j'ai lu les 2 premiers tomes, mais les autres, je les ai survolés. Et cela montre, et c'est ça exactement le problème. Et cette dichotomie, cette distance entre l'intelligentsia africaine, les gens qui sont cultivés, des docteurs comme vous et moi, ce que nous pouvons connaître, et la pauvreté intellectuelle qui est tout en bas. Entre les deux, il n'y a pas de connexion. Et c'est d'où le bien fondé de ces émissions, où nous qui sommes allés à l'école du blanc, et qui aussi sommes retournés à la source pour voir ce qui se faisait, et nous avons le devoir de transmettre à la génération qui arrive.
Et j'avoue que c'est cette fracture de l'intelligentsia qui maintient toujours nos pays dans cet état de sous-développement, je peux le dire ainsi, ou bien cet état de retard par rapport aux autres.
Exactement.
Parce qu'ailleurs, il n'y a pas cet écart entre l'intelligentsia.
Très bien.
À tel point que le commun a le minimum de connaissances.
Exactement.
Pour faire développer son milieu.
Exactement. Exactement, tout à fait.
Donc je pense que l'émission que nous sommes en train de faire nous permet de pouvoir amener tout le monde à un niveau donné par rapport aux connaissances que nous avons sur les méthodes
justement
traditionnelles thérapeutiques dont nous parlons.
Justement. Et justement, et à un certain moment, quand je le dis, c'est un engagement personnel. Moi, je suis élevé par l'argent de ceux qui vendaient le maïs, ceux qui vendaient à des mains et tout et tout et tout. C'est avec cet argent que moi, je suis allé à l'école. À la fin, je me retrouve, je suis là et je publie dans les revues françaises, dans les revues. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je rends à cette population? Ce sont des gens du village. Ils ont vendu leur maïs pour m'envoyer à l'école. Moi, je ne suis pas né de la bourgeoisie. Et je n'ai pas honte de le dire parce que beaucoup, quand ils arrivent à Lomé, ils ont fait leur thèse et tout cela. Ils essaient tout de gommer tout ce qu'ils ont eu comme passé de village. Moi, j'ai tenu la roue, j'ai labouré le sol. Donc, je me suis dit, quand je suis devenu docteur aujourd'hui, quelle est ma part? Qu'est-ce que je redonne à cette population qui m'a envoyé à l'école? C'est comme ça, la masse rurale a l'impression de perdre, au fait, ses enfants qui sont devenus aujourd'hui, entre guillemets, des civilisés et qui ont oublié tous ceux qui sont là, des docteurs, des médecins qui interdisent de boire les tisanes et autres. Ils avaient tous bu niment. On les avait tous fait, ben toi, il n'était pas mort. Pourtant, aujourd'hui, c'est eux qui disent aux gens de ne pas faire ça. Moi, je dis, il y a un
Dieu. Ce sont les effets de l'assimilation.
C'est ça. On a honte de ses origines. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais eu honte de mes origines. Je n'ai jamais eu honte de dire que mes parents sont des vaudous-ci, des vaudounons. Est-ce que vous comprenez? Même si je suis chrétien aujourd'hui, je suis un chrétien qui connaît, au fait, la culture vaudou. Et je connais toute la beauté. Et là encore, j'ai déjà écrit les livres là-dessus que je vais bientôt publier, en plus de ce que j'ai déjà publié, pour montrer aux gens que, au fait, nous ne devons pas avoir honte de nous-mêmes.
Reste à savoir si nous maîtrisons effectivement ce que c'est que l'humanité vaudou.
Justement.
Nous ne la maîtrisons pas. On a et donc rejeté... c'est à tort de critiquer la phase, la Justement. Partie superficielle que nous voyons.
Oui.
C'est toute une philosophie, je dirais c'est toute une humanité.
Le très vaudou. Profonde, très profonde. Docteur Gbekele, voyez-vous que nous avons du pain sur la planche, nous avons beaucoup de choses à partager, nous avons beaucoup... Regardez, quand j'étais en train de parler donc, des profils de plaies, et selon le profil, on va savoir exactement quel type de plante on va aller chercher pour neutraliser en même temps. Une chose que je vais rappeler aux gens... Regardez, en Afrique, il y a beaucoup de scarifications. J'ai parlé de scarifications la dernière fois.
Bien
quand
sûr,
je faisais.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'on a une fois entendu qu'on a fait scarification à quelqu'un dans un culte vaudou, dans une tradition africaine, et la personne a perdu du sang et la personne est morte? Non.
Pas ce que je sache.
Il n'y en a pas. Parce qu'on connaît les plantes qui arrêtent l'hémorragie nette. On met ça là, le sang va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez?
Et pourtant, ces scarifications ne sont pas faites par une lame assez moderne. Hein. C'est par
ce sont des couteaux anciens qui dorment sur le vaudou là-bas.
Oui. Et donc, j'imagine que ce sont des plaies profondes qui peuvent être
infectées
et qui peuvent amener, qui peuvent être fatales pour le sujet.
Mais
et pourtant, on n'en
a pas
eu.
Il n'y en a pas eu.
Cela sous-entend ce qu'on doit entendre, c'est ça?
Justement. Parce qu'on sait ce qu'on doit mettre pour que le sang s'arrête net, automatiquement.
Merci, docteur Blatovi. Vous nous avez fait un cours d'histoire nécessaire pour comprendre quand même pourquoi nous menons cette émission.
Pourquoi
il est important de ramener dans les souvenirs et de nos contemporains, ce qui a été toujours de par le passé, la fierté de l'Afrique. En termes de technique de soins, en termes de technique de guérison. Et je crois que nous allons revenir sur ces mêmes méthodes. Mais nous allons souffrir un peu en musique, le temps de permettre aux auditeurs de mieux digérer comme on a l'habitude de le dire, ce que nous venons de dire.
Tout à fait. Je suis allée, n'a pas.
Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
À Revue Web Radio, nous sommes dans l'émission Santé à la Une. Et nous sommes avec notre invité du jour, Dr Mlatovi Degbe, qui nous parle des techniques thérapeutiques endogènes traditionnelles. Et c'est avec joie que nous l'écoutons depuis le début de cette émission. Nous allons continuer avec de nouvelles techniques qu'il va nous dévoiler. Dr Mlatovi.
Merci beaucoup. Je vais d'abord parler, je parlais tout à l'heure des types de plaies. Quand on va parler des brûlures, c'est un cas vraiment typique en Afrique. Voyez-vous, aujourd'hui, on a des situations où des grands brûlés, il faut chercher les méthodes pour soigner des plaies. Cela va amener, selon le degré de brûlure, premier, deuxième, troisième, quatrième degré, on va donc amener des techniques pour pouvoir soigner ces personnes-là. Moi, j'avais eu des cas où les personnes étaient allées à l'hôpital, on les avait soignées, on a fait des pansements, mais les plaies n'arrêtaient pas de s'agrandir. Il n'y avait pas de cicatrisation. Alors, de façon traditionnelle, ils étaient partis chercher, vous voyez, les coquilles d'escargot. Les coquilles d'escargot. Et ils ont fait brûler ces coquilles-là. Je dis brûler, ce n'est pas calciner. Ils ont chauffé à un certain moment et ils ont moulu donc, ces coquilles d'escargot. Et ils ont mélangé un peu avec eau. Eau, là, je peux dire que c'est poudre de talc traditionnelle. Et on a mis sur la plaie. En un rien du temps, la personne a eu la guérison. Les gens, les grands brûlés ont été traités de cette façon-là et ils ont été guéris. Donc, c'est une méthode qui marche. Donc, au-delà des coquilles d'escargot, il y a aussi d'autres coquilles de bivalve qui sont utilisées. Mais une fois que vous voyez les coquilles d'escargot, ce n'est pas de la calcite, c'est beaucoup plus de l'aragonite. Il y a de le mieux, la dolomite. La dolomite, c'est de la calcite, mais au lieu d'avoir deux Ca dedans, ils ont du Ca et du magnésium. Plus tard, vous allez voir dans la technologie, dans la médecine occidentale, que le magnésium est beaucoup important dans les mécanismes de cicatrisation, comme des ions, des cofacteurs indispensables pour le fonctionnement de beaucoup d'enzymes. Est-ce que vous voyez? Toi qui maîtrises les techniques de la biologie moléculaire, quand on arrive quelque part, on doit utiliser certains milieux, on doit utiliser des chélateurs pour bloquer les ions Ca2+, pour bloquer les ions magnésium, parce que quand ils sont dans le milieu, il peut y avoir de la réplication d'un ADN ou bien d'un ARN qu'on ne veut pas. Est-ce que vous voyez? Donc, de façon intuitive, les gens-là connaissaient ce genre de choses pour pouvoir l'utiliser et permettre la guérison des plaies qui sont des brûlées.
À l'époque où on ne pouvait pas encore identifier ces éléments comme étant du calcium ou du magnésium.
Du magnésium. Est-ce que vous imaginez?
C'est très intéressant.
C'est très intéressant. Donc, voyez-vous, ça, c'est une technologie encore aujourd'hui dans les villages, des gens qui sont débrûlés. Moi, je le dis, je le confirme tout simplement parce que mon petit frère avait été brûlé pendant son enfance. On l'avait traité à l'hôpital, on a fait des pansements, tout ça là. Mais au lieu que... Vous voyez, les personnes sont différentes. Hein. Mon petit frère et moi, je le raconte encore comme ça, on avait eu la circoncision le même jour. Est-ce que vous voyez? La circoncision, chez nous, ce n'est pas ce qu'on faisait pendant l'enfant. Le bébé est là, il naît deux jours, on fait la circoncision. Hein. Nous, on est grand comme ça, on voyait tout. Donc, l'élément même est bien en place avant qu'on ne fasse la circoncision. Et quand on fait la circoncision, pour mon petit frère, ça n'arrivait pas à cicatriser. Alors, justement, ça nous fait revenir les différents types de profils de plaies, comment on peut les soigner. À l'époque, on a conseillé aux parents, on utilisait les antibiotiques, les ampicillines et tout cela. Ça ne marchait absolument pas du tout. On a pris tout simplement l'écorce de Mangifera indica, Amangotikpa. Encore aujourd'hui, vous allez chez les bonnes dames qui sont au bord de la route, vous allez voir qu'ils ont encore l'écorce de manguier qu'ils vont utiliser pour pouvoir soigner des plaies. Il faut que bien chauffer, et on prépare ça, ça devient une teinture façon grisâtre, et vous prenez pour nettoyer les plaies, ça a une propriété cicatrisante très développée.
Et les plantes... Là, vous parlez de l'écorce
de manguier.
De manguier.
L'écorce de manguier.
Ok.
Et ça, je suis au niveau des plaies qui sont creusées par les armes blanches, le couteau et autres, pour faire les circoncisions et autres. Et on va utiliser l'écorce de manguier. Et l'écorce de manguier, ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs autres. Est-ce que vous voyez? Les plaies qu'on a...
C'est vrai que maintenant que vous en parlez, il me vient un souvenir que Lorsqu'on tranche des écorces de manguier, après, on voit les traces disparaître.
Justement.
Oui, les traces disparaissent. On se demande si on n'a jamais eu à trancher cette écorce-là.
Oui, ça, c'est de la pharmacognosie. On remarque que c'est une plante dont on coupait vraiment l'écorce, mais l'écorce a toujours la capacité de revenir à sa place. Donc, déjà là, de façon empirique, on dit que cette plante-là doit avoir un pouvoir cicatrisant qui lui permet de se guérir de ses propres plaies. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ça.
Alors, certains parleront de la théorie des signes.
Est-ce que tu vois?
C'est-à-dire la plante signe par ses arcanes.
Justement. Donc, cette plante nous a vraiment aidés. Et je vais donner un signe. Les plantes qui sont des plantes qui ont activité cicatrisante, ce sont des plantes qui ont la propriété astringente. C'est-à-dire qu'ils rendent le milieu sec. Parce que pour que les microbes puissent se développer, il faut quand même qu'il y ait le plasma, il y a le liquide qui reste dans le milieu. Ça favorise leur développement. On sait que les cultures des bactéries et autres, là, il faut un milieu de culture le plus souvent liquide ou du moins humidifié. Donc, les plantes qui ont une propriété astringente, qui ont la propriété de rendre le milieu sec, participent beaucoup à la cicatrisation.
En effet. On sait que l'activité hydrique est une activité qui favorise beaucoup la multiplication des microbactéries.
Justement.
Des bactéries, des micro-organismes, disons. Et donc, l'effet inverse serait vraiment prometteur pour
le traitement. Pour entraîner la cicatrisation. On va donc aborder, par exemple, lorsque vous venez d'avoir une blessure, par exemple, par roue, par dabat, par coupe-coupe, il faut d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, des molécules ou bien des plantes qui vont arrêter l'hémorragie. Les plantes anti-hémorragiques. Je pense que ça peut être un sujet de...
et ça, j'imagine que c'est de l'urgence.
Justement.
Parce que les blessures avec daba, coupe-coupe au champ, on sait de quoi il s'agit.
Justement.
Et on ne s'attend pas et du coup, on a le coup qui part.
Justement.
Et donc, il faut rapidement agir.
Et lorsque...
J'imagine l'efficacité de ces plantes-là, de ces techniques-là.
Justement. Quand la veine est coupée, quand l'artère est coupée, vous voyez le sang qui jaillit. Il faut arrêter ça. Imaginez quand les gens faisaient la guerre en Afrique. Vous avez vu le film là, Woman King. Woman King, c'est un film très intéressant. Il faut que je t'envoie le lien. Tu peux le télécharger aujourd'hui sur beaucoup de plateformes.
Je pense que ça doit être un film qui parle des Amazones.
Exactement.
Oui, de ces femmes guerrières. Qui ont fait...
Vous avez vu, quand elles vont à la guerre, elles sont blessées. Elles n'ont pas alcool, hein. Elles n'ont pas bétadine, hein. Mais les plaies guérissaient et laissaient juste des cicatrices qu'on peut à peine distinguer. Donc, elles ont une connaissance de toutes ces plantes-là qui permettaient donc de guérir des plaies. Encore aujourd'hui, et là, quand j'en parle, entre-temps, ma méditation, comme tout le temps, toi et moi, on s'entretient sur ce qu'on pourrait faire en recherche. Regardez aujourd'hui le problème de plaies au niveau des diabétiques.
Oui, ça c'est une casse-tête.
Justement. Et cela entraîne le plus souvent l'amputation. On ampute les diabétiques. On est d'accord? Or, la recherche montre que, au fait, le gène du diabète existait depuis en Afrique. Mais, comme on l'a dit en début d'émission, on n'a pas vu dans la culture africaine beaucoup d'amputés.
Non.
Comment les gens traitaient ces plaies-là à l'époque et qu'aujourd'hui, on n'avait plus cette technologie pour traiter et on amputait? Arrivé à ce moment, on dit que, ah, monsieur, on va couper le pied. Et j'ai vu beaucoup de membres de nos familles, parce que le diabète, hein, c'est dans presque toutes les familles africaines. Hein.
Et ça, c'est un traumatisme. Hein.
Justement.
Parce que du jour au lendemain, vous qui avez eu toujours l'usage de vos membres,
justement,
vous retrouvez démunis de ce membre-là. Et donc,
c'est difficile à supporter.
C'est assez stressant. Et puis psychologiquement, c'est choquant.
Exactement. En fait, ce sont ces questions qui m'ont amené à aller faire des recherches. Je me dis, ben tiens, aujourd'hui, on coupe les pieds de tout le monde. Telle femme dit sous le diabète, le médecin dit que le spécialiste vient analyser, il faut lui couper le pied. Ah. Vous savez que des gens fuient l'hôpital pour revenir à la maison. Beaucoup de personnes, moi quand j'étais vraiment hospitalisé après un accident, il y a beaucoup, quand on dit qu'on va couper leurs membres, ils quittaient, ils fuyaient. Et ils allaient chez les guérisseurs traditionnels. Et ces gens-là revenaient avec leurs membres. Ce qui veut dire qu'il y a de quoi se poser des questions. Quelles sont ces connaissances-là que les gens avaient et qu'aujourd'hui on a perdu? Il faut les rechercher.
Les rechercher, les documenter et surtout les mettre disponibles pour que le médecin conventionnel
oui.
puisse aussi utiliser cette technique-là lorsque les techniques conventionnelles semblent être à la limite de leur prouesse.
Exactement.
Donc, je crois que ça doit être un appel à toutes les facultés de médecine pour
de rechercher
l'exploitation des anciennes techniques
thérapeutiques
qui sont assez efficaces.
Merci, docteur Bickley. Je pense que ça nous interpelle tous. La dernière fois, quand en commençant l'émission, je disais que aujourd'hui, quand on sort un peu partout dans nos rues, on voit les fous aux quatre coins de la rue qui se baladent. Mais est-ce qu'en Afrique, avant, il y avait beaucoup de fous comme ça? Mais on arrivait à les guérir. On va se poser la question, qu'est-ce qui se faisait et qui ne se fait plus? Et c'est là qu'on va chercher. Donc, au niveau des plaies, il y a des gens qu'on appelle les abitrotos, ou tronabia.
D'accord.
Tu comprends un peu? Je ne sais pas comment traduire ça.
La traduction dirait les destructeurs de plaies.
De plaies.
Voilà.
Ce sont des gens, et j'ai été un témoin vraiment oculaire une fois. C'est saisissant.
Aujourd'hui, assez de cas pratiques.
Oui.
Voilà.
Justement, parce que ce sont ces choses, donc, quand tu as été témoin, que tu es convaincu que, comme je te disais, que il y avait quelqu'un qui guérissait de l'asthme. La personne fait une crise d'asthme et il tombe. Le gars arrive, quelques minutes, la personne est là, tranquille. Là, ça te choque. Les destructions de plaies, c'est qu'une personne vient d'être blessée. Grave. Coupe-coupe, roue, d'abat, le sang jaillit et tout. On appelle la personne, ils ont des messieurs, des choses, ils mettent dans la bouche, ils mettent dans les mains. Et sur le plan, sur le champ en même temps, ils mettent la main dans la plaie, ils font des choses. Je te dis, la plaie que tu venais de voir tout à l'heure, béante, la plaie disparaît. Et tu ne vois que là qu'il y avait une lésion, mais en un, deux jours, ça part. Mais c'était des plaies et ce sont des gens, quand ça se passe, on sait comment aller les chercher. Et quand j'ai poussé la curiosité, je suis arrivé sur une méthode qui s'est développée aux Philippines, en Asie. Ce sont les guérisseurs spirites. Je te dis, quand tu vois les vidéos sur YouTube, tu serais étonné. Ce sont des gens qui opèrent à la main. Vous voyez, tu as une fois vu ça?
Bon, j'en ai entendu parler.
Oh, tu vois les vidéos, ils n'ont pas de lame, ils n'ont rien. Ils ouvrent les ventres des personnes, ils sortent les intestins avec les doigts et ils enlèvent le cancer des tumeurs, ils remettent les intestins et ils passent la main, c'est cicatrisé. Donc ça, on peut dire que c'est mystique. Mais ce que moi je dis, c'est qu'il y a toujours une base scientifique dans tout cela. On doit les documenter. Ces personnes qui détruisent les plaies, les habitants là, on doit essayer de savoir quelle technologie ils utilisent.
De documenter, de faire de la recherche scientifique sur cette technique-là. Et je pense que ça va repousser la limite de ce qu'on dirait être spirituel.
Oui.
Pour que cette technique-là, hier ou bien aujourd'hui spirituel, soit demain des techniques
évidemment
scientifiquement prouvées pour qu'on puisse l'utiliser pour la santé publique.
Justement, l'Occident en est passé par là. Savez-vous qu'il y a un pape qui interdisait aux gens de prendre les trains? Parce que la forme de serpent, là, il dit que c'est le diable. Vous voyez? C'est que il faut faire passer les choses de leur aspect mystique. Petit à petit, la science rentre dedans. Et ce sont des techniques qu'on est en train d'acquérir.
Aujourd'hui, le train est utilisé pour se déplacer sur de longues distances. Et c'est un bon moyen de déplacement. Certains présidents, même le préfet, aux techniques plus évoluées comme l'avion.
Justement.
Pour se déplacer. Merci, docteur Degbe, pour toutes ces informations. Nous avons appris, nous avons constaté que ces techniques-là de traitement des plaies existent et qu'il y a non seulement ces techniques, mais il y a des spécialistes qui maîtrisent ces techniques et qui sont à mieux de permettre à ce que ces plaies-là guérissent rapidement.
Tout à fait.
Je pense que vous n'avez pas fini de nous donner toutes les techniques.
Pas du tout.
Nous aurons encore besoin de deux ou trois techniques. Mais là, nous allons souffrir un peu en musique.
Avant de revenir.
Et nous allons revenir pour ces deux techniques-là et clore l'émission du jour.
Don't peña elo nusia nusio la wo maja me sia me todio chicha me yele nenelo aleke kona no maja me sia me todio. Amere o la longa oba, yamere o yola trinya oba. Amere o la longa oba, yamere o yola trinya oba. Novio nene deni, mende.
Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
Nous sommes dans le studio de la Web Radio à Revue Info et nous sommes dans l'émission Santé à la Une. Aujourd'hui avec Dr Mlatovi, nous parlons des techniques thérapeutiques endogènes traditionnelles pour le bonheur de la population. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Nous allons écouter encore deux ou trois techniques avant de laisser les auditeurs gérer la leçon du jour.
Merci beaucoup, Dr. Bekele. Nous sommes sur les profils de plaies. Nous avons déjà cité les brûlures, on a cité
les plaies de circoncision.
De circoncision.
Voilà, les plaies champêtres.
De scarification, voilà. Champêtres et autres. On a aussi les plaies qui sont causées par des mycoses. Vous voyez, la personne peut avoir des infections, des dermatoses, et cela va entraîner des plaies.
Des fois, la plaie, elle est profonde,
justement,
sans qu'on le sache.
Et parfois, même si c'est superficiel, en même temps, ces plantes-là, non seulement elles ont l'activité cicatrisante, mais elles ont aussi l'activité antimycosique. Ils vont enlever donc l'infection, ils vont donc enlever les mycoses et traiter la plaie. Il y a beaucoup de ces plantes-là qui vont traiter les plaies. Par exemple, il y a les teignes qui vont entraîner des plaies. Il y a aussi, par exemple, les kéloïdes. Les kéloïdes qui vont apparaître après les rasages et autres. Moi, j'en ai fait une pommade Stop Kéloïde que je vendais. Donc, ceux qui ont ces boutons de rasage qui sont devenus des plaies qui vont devenir comme des petites tumeurs, non? Donc, ça les traite. Il y a des plaies qui vont être issues, par exemple, des boutons autour de la bouche, les aftes, je ne sais pas comment les appelle-t-on, ces boutons autour de la bouche et parfois à l'intérieur de la bouche, que généralement ces plaies-là, ici on va les appeler les maniens, les plaies dans la bouche, les plaies dans les voies vaginales.
Voilà, c'est des plaies internes.
Internes.
Qui colonisent tout le tube digestif.
Justement.
Voilà.
Et généralement quand tu vas chez les vendeurs de plantes médicinales, quand tu dis abigbé, en même temps, quand tu dis abigbé déjà, on sous-entend des plaies à l'intérieur du corps. Et effectivement, il y a des plaies à l'intérieur du corps. Parfois même, on peut se rendre compte que toute sa bouche, c'est des plaies. Au moins, les gencives, même ça, ça fait mal. Ce sont des plaies. Et ces plaies, ça doit être cicatrisé. Il y a des plantes qu'on va préparer pour se gargariser la gorge. Il y a des angines qui sont des plaies aussi. Je vais arriver sur des plaies gangréneuses, des gangrènes. C'est comme des plaies cancéreuses. Aujourd'hui, avec l'avènement du VIH,
les plaies diabétiques en font partie.
En font partie à peu près. Donc, on va utiliser des plantes comme Veronia amygdalina. Aujourd'hui, avec les technologies de la biologie cellulaire, on a pu mettre en évidence que Veronia amygdalina a des propriétés apoptotiques. J'ai publié un article là-dessus qui met vraiment en évidence les propriétés apoptotiques de Veronia amygdalina.
Alors, de manière simple pour nos auditeurs, apoptotiques.
L'apoptose.
L'apoptotique.
Oui. En fait, on peut dire que notre organisme, nous les êtres vivants, nos cellules se renouvellent. On change de peau. On change les cellules de nos intestins. Ça se renouvelle. Donc, il y a une, ce qu'on appelle la mort programmée donc des cellules. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. La mort programmée n'est pas une mauvaise chose. Les cellules qui arrivent en sénescence, qui arrivent en fin de vie, doivent être remplacées par les jeunes cellules. Si elles refusent de mourir, ça va créer un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des plantes qui font ça, qui font partie des anciennes pour renouveler donc, les nouvelles. Donc, ils ont la propriété apoptotique. Et il s'est avéré que les plantes qui ont cette propriété apoptotique, ils ont aussi une propriété antitumorale. Donc, les cancers, les tumeurs, c'est lorsque les cellules, au lieu de mourir, refusent de mourir, se multiplient.
Et créent un bouchon.
Justement. Donc, là, justement, Vernonia amygdalina, comme plusieurs autres plantes, en fait, on n'est pas venu pour citer les différents types de plantes.
Non, assez d'exemples qui, quand même, ont rendu assez exhaustives.
Donc,
les méthodes du jour.
C'est ça.
Donc, c'est avec une joie que nous remercions, hein, parce que ce n'est pas donné d'avoir toutes ces informations-là.
Justement.
Et ce n'est qu'un numéro de cette série qui vient de se passer.
Il y en a plein.
Nous allons revenir dans d'autres numéros, sur d'autres techniques.
Déjà, j'annonce ceci, on va réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, je voulais même aborder les connaissances toxicologiques des anciens. Aujourd'hui, regardez, on importe des tonnes et des tonnes de pesticides pour tuer les vers, les chenilles sur les plantes et autres. Alors qu'en Afrique, ils vont se poser la question, nos ancêtres aussi cultivaient les légumes, ils cultivaient les plantes. Mais comment faisaient-ils pour lutter contre justement les chenilles, les insectes qui vont manger leurs produits? D'abord, ils ont une connaissance des saisons. Parce qu'ils savent, tous ceux qui savent sont dans le milieu de champs, ils savent qu'il y a une certaine position de la lune. Quand on sème en ce moment-là, les chenilles vont attaquer. Et quand on sème en ce moment-là, ils vont aller chercher ce qu'on appelle un ngotronti. Ngotronti, là, c'est chenille. Tron, c'est détruit. Ti, c'est la poudre. Ngotronti. Donc, ils savent préparer ce qu'on appelle le ngotronti. Quand on met dans le champ, les chenilles ne peuvent pas manger. Et ce sont des produits tout à fait naturels qui sont donc très facilement biodégradables. Aujourd'hui, le problème que posent les pesticides dans nos milieux, ce sont des molécules qui se retrouvent intactes des dizaines, des décennies après, et qui causent des dommages.
C'est un véritable problème de santé publique.
De chlore, des cornes dans les Caraïbes et tout.
Exactement. Alors, donc, j'imagine qu'après cette série d'émissions sur les techniques thérapeutiques traditionnelles,
oui,
nous allons entamer les techniques traditionnelles d'agriculture
d'agroalimentation.
Et ça, je pense que ce sera une bonne chose pour les auditeurs.
Tout à fait.
Ils vont savourer ce que nous avons eu à débattre aujourd'hui.
Oui, oui.
Nous sommes dans l'émission Santé à la une. C'est l'émission qui nous dit tout sur la santé au quotidien, nos droits à la santé, mais nos devoirs vis-à-vis de notre propre santé. Aujourd'hui, nous étions dans le troisième numéro de cette série avec vous, Dr Mlatovi, que nous remercions. À la partie technique, c'était Miss Darley qui nous conduit. Et moi-même, votre fidèle serviteur, Dr Buckley. Nous allons nous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Santé à la Une. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.
Merci, Dr Buckley.